France Culture.
Journaliste signée Julie Pacaud. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Ramener l'Iran sur le chemin de la diplomatie, c'est ce à quoi s'emploient la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, dont les ministres des Affaires étrangères sont réunis à Genève aujourd'hui, autour de leur homologue iranien, au 8e jour de guerre entre Israël et la République islamique. Des négociations diplomatiques sans les Américains. Le président américain Donald Trump doit en effet décider dans les deux prochaines semaines d'une participation militaire aux frappes de son allié israélien contre l'Iran. Et au sein de son entourage, certains généraux l'y poussent. En cette journée mondiale des réfugiés, nous nous pencherons sur l'action menée par Emmaüs International au centre d'hébergement d'urgence pour migrants de Paris-Ivry qui propose une préscolarisation aux exilés. Enfin, le dossier du journal de 18h revient sur les origines d'une rumeur infondée, celle présentant l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron, comme une femme transgenre. 8e jour de conflit entre Israël et l'Iran. Et alors que les affrontements se poursuivent entre les deux pays, on va y revenir. Les chefs de la diplomatie iranienne, française, allemande et britannique sont rassemblés en ce moment à Genève dans l'espoir de trouver une issue pacifique au règlement du conflit. Pour ce faire, une offre de négociation complète est donc faite aux Iraniens. Offre incluant le nucléaire, l'encadrement des activités balistiques ou encore l'arrêt du financement des groupes terroristes. Bonsoir Jérémy Lanche, correspondant de France Culture à Genève. Eh bien, cette réunion en urgence avec la chef de la diplomatie européenne vise à trouver une porte de sortie à la crise, Jérémy, sur le nucléaire iranien, et les discussions ont lieu en ce moment même.
Oui, les diplomates sont réunis depuis le milieu d'après-midi à l'hôtel intercontinental de Genève où des dizaines de journalistes guettent le moindre mouvement, la moindre déclaration d'un responsable. Ce qui est sûr, c'est que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, n'est pas venu pour hisser le drapeau blanc. Juste avant la réunion, il a pris à partie les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour leur demander de condamner ce qu'il appelle une guerre injuste.
L'Iran se défend contre une agression barbare. Nous sommes déterminés à défendre notre intégrité territoriale et notre sécurité avec toute la force nécessaire. Par son invasion illégale de l'Iran, Israël menace la paix et le droit international. Nous demandons légitimement à ce que chacun d'entre vous se place du côté de la justice.
Et juste avant, l'ambassadeur israélien a dénoncé la présence d'Abbas Araghchi à l'ONU, estimant que le Conseil aurait mieux fait de respecter une minute de silence pour les victimes des missiles iraniens.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion? Est-ce que l'on sait si un plan de sortie de crise est mis sur la table, Jérémy?
Eh bien, d'après Emmanuel Macron, les Européens doivent présenter une offre de négociation complète à Téhéran, avec la fin du financement des groupes terroristes dans la région, la libération des otages, notamment français, l'encadrement des activités balistiques et puis surtout l'accès total de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux installations iraniennes et un engagement de Téhéran à ne plus enrichir d'uranium. Dit comme ça, on voit mal l'Iran accepter des conditions aussi drastiques, même dos au mur. Mais il y a l'inconnu Donald Trump. Les États-Unis sont absents des discussions, en tout cas officiellement, mais ils seront tenus informés très rapidement de ce qui va se décider ou pas cet après-midi à Genève.
Jérémy Lanche à Genève pour France Culture. Car si les États-Unis sont absents officiellement de ces discussions, on l'entendait, eh bien Donald Trump réunissait encore ce matin un conseil de sécurité nationale. Le président américain s'est laissé donc 2 semaines avant de trancher quant à une éventuelle intervention contre l'Iran. Et parmi les partisans d'une réponse militaire, le général Kurila, en charge du CENTCOM, le commandement central dont la zone d'influence comprend le Moyen-Orient. Un homme à l'influence donc considérable dans l'hypothèse d'un engagement armé des Américains aux côtés d'Israël, Loïc Loury.
Il est surnommé le gorille, un grand gaillard musclé, décrit un ancien responsable du Pentagone avec cet air létal propre à charmer Donald Trump. Le général Michael Kurila, à la tête du CENTCOM, serait l'un des visages d'une intervention américaine en Iran. Partisan d'une réponse forte, le militaire assure avoir préparé un large éventail d'options pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Discret mais pugnace, le Pentagone ne lui refuserait rien, quitte à dégarnir la très stratégique zone indo-pacifique et contre l'avis du chef d'état-major des armées. Mais tout le monde, selon Politico, ne lui reconnaît pas une telle influence. Kurila serait simplement au bon endroit, au bon moment, supervisant 40 à 50 000 soldats au Moyen-Orient. Peut-être se montre-t-il aussi plus pressé d'intervenir en Iran, alors que son mandat à la tête du CENTCOM est sur le point de s'achever.
Quant à Emmanuel Macron, il appelle donc à priori favoriser le retour à la négociation. Le chef de l'État, qui lors de sa visite au salon de l'aéronautique du Bourget en Seine-Saint-Denis, a bien évidemment été interpellé sur les conflits en cours au Proche-Orient et en Ukraine. Le chef de l'État a notamment rappelé, Elia Bergel, que rien ne justifiait les frappes sur les infrastructures et les civils en Iran.
Oui, dès sa descente de l'avion qui l'amène au Bourget, le président est immédiatement interrogé sur la guerre entre l'Iran et Israël.
Personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. C'est un vrai risque, c'est une vraie menace. La France, d'ailleurs, ne l'a jamais négligé.
Sur le tarmac, dans un avion militaire Airbus A400M, le chef de l'État s'essaye à nouveau au « en même temps » diplomatique.
Un, rien ne justifie les frappes sur les infrastructures énergétiques et les populations civiles. Rien. Et deux, il faut absolument prioriser le retour à la négociation de fond qui inclut le nucléaire, le balistique pour limiter les activités et les capacités iraniennes et le financement de tous les groupes terroristes de déstabilisation de la région.
Tentative de faire entendre la voix de la France au milieu du brouhaha des déclarations incendiaires du président des États-Unis sur ce conflit Iran-Israël. Emmanuel Macron botte d'ailleurs en touche au sujet des prises de position de Donald Trump qui n'exclut pas une intervention américaine.
Je ne suis pas dans le commentaire. La situation est objectivement aujourd'hui une source d'inquiétude.
Cette situation porte en elle des risques d'escalade, met en garde le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui, sur le plan intérieur, veut impliquer les partis politiques.
Je souhaite que le gouvernement, et j'en ai parlé ce matin avec le Premier ministre, puisse organiser sur ce sujet un débat, conformément à l'article 50-1 de notre Constitution.
Un débat à l'Assemblée. Emmanuel Macron veut aussi recevoir les partis politiques à l'Élysée après le sommet de l'OTAN la semaine prochaine pour évoquer l'Iran, Gaza, mais aussi la guerre en Ukraine.
Loin du salon du Bourget, loin également des négociations diplomatiques à Genève, eh bien les tirs de missiles iraniens se sont poursuivis aujourd'hui en Israël, notamment à Tel Aviv et à Haïfa, blessant au moins 19 personnes. L'armée israélienne a de son côté multiplié ses frappes en Iran, visant notamment cet après-midi des batteries de missiles solaire dans le sud-ouest du pays, après avoir ciblé des dizaines de cibles militaires, notamment à Téhéran la nuit dernière. Un scientifique nucléaire aurait été tué dans l'une de ces frappes. À Téhéran, mais aussi à Bagdad, Beyrouth, Sanaa, des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui dans les capitales du Moyen-Orient pour dénoncer la guerre déclenchée par Israël. La télévision d'État iranienne montrant des milliers de personnes scandant des messages de soutien aux dirigeants de la République islamique. Par ailleurs, un ressortissant européen présenté comme un espion par Téhéran aurait été arrêté en Iran. Dans ce contexte, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays, dont la Suisse, qui représente les intérêts américains en Iran, ont annoncé avoir retiré leur personnel diplomatique en poste dans le pays. C'est un autre conflit dont on parle moins mais qui s'aggrave au Soudan. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'alarme aujourd'hui de l'intensification de la guerre civile qui a débuté il y a plus de 2 ans. Volker Türk alerte sur les conséquences désastreuses de l'escalade des hostilités dans les régions du Darfour et du Kordofan où des victimes civiles, des violences sexuelles, des enlèvements et des pillages ont été signalés dans de nombreuses zones. Une guerre qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de 10 millions de personnes à l'intérieur du pays. Des milliers d'entre elles se retrouvent aujourd'hui bloquées à la frontière du Soudan du Sud. Car si le nombre de personnes cherchant à fuir leur pays à travers le monde ne cesse d'augmenter, dans le même temps, les aides internationales, notamment humanitaires, elles, diminuent. Alors en cette journée mondiale des réfugiés, comment se déroule aujourd'hui leur accueil dans les centres d'hébergement d'urgence en France? Eh bien France Culture vous emmène ce soir au centre d'hébergement d'urgence pour migrants de Paris-Ivry, à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, géré par Emmaüs International qui héberge 450 personnes, dont 179 enfants. Et cette structure, ouverte en 2017, Mathieu Laurent, a la particularité d'offrir une unité de préscolarisation.
Très bien. Prenez votre cahier.
9h, l'entrée en classe. Celle qu'anime Jennifer, du CP au CM2, élève de 6 à 10 ans, dont Romain.
J'apprends à écrire, faire des mathématiques, après faire du sport, courir, c'est bien à la classe. Ça passe bien.
Romain est arrivé au centre le 27 avril dernier avec sa mère. Départ de Goma, en RDC, Nord Kivu, avec à leur trousse les miliciens du M23 à la solde du Rwanda et sur le chemin.
Bon, j'étais violée à Walikale. J'étais violée à Walikale et puis mon téléphone me battait même, tapait. À Walikale, je suis violée. Mon fils connaît tout.
Ici, vous êtes entouré.
Je suis bien. Je dors bien, je mange bien, tout ça bien. Oui.
Est-ce
que tu peux me montrer l'arc-en-ciel. Ah, tu es un génie, bravo. Et l'étoile de mer, elle est où?
Caroline Mogheni, en charge de la maternelle, est la coordinatrice de cette antenne de préscolarisation.
On va beaucoup parler avec eux, avec les mains, le regard, en parlant doucement. On prend le temps de les écouter, on prend le temps de les rassurer, on leur donne le temps de jouer aussi, beaucoup. Ici, ils ont la chance de pouvoir faire du sport, de la musique et des arts plastiques. Donc ce sont quand même des enseignements qui leur permettent d'exprimer et de déposer leurs émotions.
Lotfi Ouanezar, directeur général d'Emmaüs International.
Notre tâche, elle est plus compliquée parce qu'on est dans un contexte politique extrêmement difficile où on voit que les idées de rejet de l'autre sont très présentes. Mais l'autre, c'est nous. Et nous, c'est l'autre. Aujourd'hui, il y a une crise du non-accueil. Ce n'est pas admissible. Il faut des lieux d'évaluation sociale et médico-sociale pour orienter les personnes par la suite. Et après, de repartir dans la vie avec un peu d'estime de soi et un peu de background.
Tu le dis ? La pieuvre ?
La pieuvre !
C'est très bien. Bravo mon chat, tu peux y aller, tu peux rentrer.
Reportage signé Mathieu Laurent pour France Culture. Et à quelques kilomètres d'Ivry-sur-Seine, eh bien la Maison des Réfugiés à Paris propose aujourd'hui une journée dédiée à la solidarité. Parmi les invités, le metteur en scène Alexia Michalik, récompensé de 6 Molières. Le dramaturge a mis en scène la pièce Le Passeport, qui relate l'histoire d'un réfugié érythréen dans la jungle de Calais. Au micro de Pierre Ropert, il nous raconte comment il s'est emparé de la question des réfugiés dans cette pièce.
Pour ce qui est de la perception de la pièce, il y a évidemment des gens qui étaient déjà enclins à partager mes idées. Et puis, il y en a d'autres qui venaient voir un spectacle et qui, a priori, n'étaient pas forcément touchés par le sort des réfugiés. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui, en sortant, me disaient « Bah voilà, maintenant, je regarderai mon livreur Uber Eats ou Deliveroo différemment. » Après, ça reste une pièce de théâtre. Il faut être réaliste sur le fait qu'on va pas changer la société à partir d'une pièce de théâtre. Mais au moins, c'est un début de dialogue. L'art, c'est ce qui nous permet de rêver un peu hors des cases. Qu'on peut dire, attendez, sortons un peu de tout ça et revenons à l'essentiel. C'est quoi ce qui fait qu'on est humain? C'est quoi ce qui fait qu'on est ému? C'est justement d'aller vers l'autre, c'est justement d'apprendre de l'autre, c'est pas le repli sur soi. L'art, ça se substituera jamais au pouvoir public. Tout ce que ça peut faire, c'est donner une base sur laquelle on peut s'appuyer pour dire, vous voyez, c'est comme dans l'histoire de Souleymane. Pourtant, c'est pas un documentaire, c'est un film. On peut s'appuyer dessus parce que tout le monde l'a vu et tout le monde sait de quoi on parle. Et c'est plus efficace que d'envoyer un discours politique. Parce que l'émotion, c'est ce qui peut nous permettre de basculer dans l'empathie et donc d'éveiller nos consciences et de changer d'avis.
Alexis Michalik, que vous pouvez entendre en longueur dans le podcast L'Info de France Culture, disponible ce soir à 21h. Au procès en appel de l'attentat de Magnanville, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre Mohamed Lamine Abérouz, jugé pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile en juin 2016. L'avocate générale demande donc à la Cour d'assises spéciale de Paris de confirmer la peine de première instance, à savoir donc la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le verdict est attendu demain soir. C'est une nouvelle étape dans l'affaire des airbags défaillants du fabricant japonais Takata. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris, notamment pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui à la suite de plusieurs plaintes déposées par l'association UFC Que Choisir et des propriétaires de véhicules du groupe Stellantis équipés de ces airbags. Les juges d'instruction pourraient donc être rapidement amenés à enquêter sur 3 accidents mortels impliquant ces airbags Takata, survenus dans les Hautes-Pyrénées, à Reims et en Martinique. Le ministère des Transports recense à ce jour au total en France 18 morts et 25 blessés dans des accidents impliquant ces airbags défectueux. C'est un revers pour le gouvernement qui se targuait d'avoir réussi à bloquer l'accès des mineurs aux principales plateformes de contenu pornographique. Eh bien, les géants du X, YouPorn et Pornhub sont à nouveau accessibles en France aujourd'hui, après la suspension ordonnée par la justice de l'arrêté gouvernemental, qui imposait donc aux plateformes pornographiques situées dans l'Union européenne de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris estime qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce texte au regard d'une directive européenne. Le gouvernement compte contester cette suspension et prévoit un pourvoi en cassation. Après le décès d'un enfant de 12 ans lundi, après un 10e cas d'intoxication alimentaire sévère détecté chez un enfant, là encore dans l'Aisne, eh bien deux boucheries de Saint-Quentin ont été fermées préventivement aujourd'hui par la préfecture. Les enfants malades ont en effet consommé de la viande ou des produits à base de viande issus de ces deux établissements quelques jours avant les symptômes. Les résultats des analyses de prélèvements effectués dans ces commerces devraient être connus en début de semaine prochaine, précise encore la préfecture de l'Aisne. On retourne aux États-Unis pour le dossier de ce 18h, dossier qui se penche ce soir sur l'anatomie d'une rumeur devenue virale outre-Atlantique, à savoir cette fausse information présentant l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron, comme une femme transgenre. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir Julie.
De la cellule d'investigation de Radio France, vous avez enquêté sur l'origine de cette rumeur infondée et comment elle a été reprise par des proches de Donald Trump.
Oui, alors tout est parti de France en 2021. Dans une vidéo, une ancienne gilet jaune et une médium prétendent démontrer que Brigitte Macron serait en fait un homme, son frère, qui aurait changé de sexe. Je précise que ces deux femmes ont été condamnées en diffamation et qu'elles ont fait appel. En attendant, en 2021, cette rumeur est relayée en France par une revue d'extrême droite dirigée par un certain Xavier Poussard, qui se rapproche ensuite d'un ancien publicitaire qui a viré complotiste, Zoé Sagan, c'est son pseudonyme. Et pour mettre en avant cette théorie, ces deux hommes ont une idée derrière la tête, comme l'explique l'auteur du livre « L'affaire Madame », Emmanuel Anison.
Dans l'affaire Brigitte Macron, les deux hommes travaillent main dans la main. Le grand fantasme de Zoé Sagan et de Xavier Poussard, c'est de réussir à la faire reprendre par les milieux complotistes américains qui sont beaucoup plus puissants.
Et fin 2023, afin d'attirer l'attention des réseaux trumpistes, Xavier Poussard envoie un communiqué à des podcasteurs républicains et même à la société du président Trump, la Trump Organization. Quelques mois plus tard, l'influenceuse ultra-conservatrice et complotiste Candace Owens contacte à son tour Xavier Poussard et elle commence à relayer sa théorie sur sa chaîne YouTube qui a 4 millions d'abonnés.
Si ce qui se passe en France en ce moment est vrai, et je peux vous dire que je suis à peu près sûre que c'est le cas, c'est potentiellement le plus gros scandale politique de l'histoire de l'humanité.
Début 25, Candace Owens démarre alors une série de vidéos qui engrangent des millions de vues, et tout ça en lien avec Xavier Poussard, qui lui publie un livre en français et en anglais, avec à chaque fois le même titre, « Becoming Brigitte », devenir Brigitte.
Et Laetitia, vous avez découvert que cette thèse farfelue était notamment relayée par un proche de Donald Trump.
Oui, il s'agit du général Flynn, 67 ans. Il a été brièvement conseiller à la sécurité nationale de Trump lors de son premier mandat, comme l'explique le spécialiste de l'extrême droite américaine, Maxime Dafor.
C'est quelqu'un qui a été très proche des instances de pouvoir, que ce soit dans l'armée, on parle d'un général 3 étoiles. C'est pendant la campagne présidentielle de 2016 qu'on entend vraiment parler de lui pour la première fois à l'échelle nationale. Il y a une grande proximité avec la campagne de Donald Trump, au point qu'on pense à Michael Flynn pour être le colistier du milliardaire républicain.
En 2016, le général Flynn a été inculpé pour avoir menti au FBI sur des échanges qu'il a eus avec des Russes avant d'être gracié par Donald Trump, dont il est resté proche. Et ce membre du mouvement complotiste, QAnon, a même organisé des soirées de soutien à Donald Trump, comme le 13 mai 2023 en Floride. Ce jour-là, le général Flynn appelle Donald Trump et il met son téléphone en mode haut-parleur devant le micro pour que toute la salle entende. Écoutez Donald Trump.
Je dois dire, le général Flynn, c'est un sacré bonhomme. Il a encaissé des attaques comme personne ne pourrait le faire. Il en est ressorti plus grand, plus fort, meilleur que jamais. On l'adore, c'est un leader. Je veux que tu aies une vie formidable et il faut que tu restes en forme parce qu'on va te faire revenir.
Et comme le général Flynn, de nombreux podcasteurs américains ont relayé la théorie de Candace Owens. C'est le cas du masculiniste Joe Rogan, le podcasteur le plus écouté au monde avec 20 millions d'abonnés et 5 milliards de vues sur sa chaîne YouTube. Les époux Macron, eux, ont mandaté un avocat américain pour suivre cette affaire aux États-Unis.
Merci beaucoup Laetitia Chérel. Votre enquête avec beaucoup d'autres témoignages est à retrouver sur le site de Radio France. La météo avec 16 départements vigilants. Vigilance orange canicule ce soir et demain, majoritairement dans l'ouest du pays, de la Manche à la Charente-Maritime. Les températures seront comprises entre 35 et 38 degrés demain après-midi. Et demain matin, eh bien, les nuages bas s'attarderont du Finistère aux Côtes d'Armor. Des ondées sont aussi possibles le long de la frontière italienne. Et il fera chaud déjà au réveil. 19 à 20 degrés attendus sur la moitié nord, entre 10 et 20 degrés du nord-est au nord-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, Olivier Arnay à la technique.